la volonté de Dieu.
Nous lirons dans l'évangile de Luc au chapitre 22, du verset 35 au verset 46. Il leur dit encore, « Quand je vous ai envoyé sans bourse, ni sac, ni sandales, avez-vous manqué de quelque chose ?» Ils répondirent, « De rien. » Il leur dit, « Maintenant, au contraire, que celui qui a une bourse la prenne, que celui qui a un sac le prenne également, et que celui qui n'a pas d'épée vende son vêtement et en achète une. En effet, je vous le dis, il faut que s'accomplisse dans ma personne ce texte de l'Écriture. Il a été compté parmi les criminels. Et ce qui me concerne est sur le point de se réaliser. » Ils dirent, « Seigneur, voici deux épées. » Il leur dit, « Cela suffit. » Il sortit et se rendit comme d'habitude au mont des Oliviers. Ses disciples le suivirent. Lorsqu'il fut arrivé à cet endroit, il leur dit, « Priez pour ne pas céder à la tentation. » Puis il s'éloigna d'eux, à la distance d'environ un jet de pierre, se mit à genoux et pria, en disant, « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois, que ce ne soit pas ma volonté qui se fasse, mais la tienne. » Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Saisi d'angoisse, Jésus priait avec plus d'insistance et sa sueur devint comme des caillots de sang qui tombaient par terre. Après avoir prié, il se releva et vint vers les disciples qu'il trouva endormis de tristesse. Alors il leur dit, « Pourquoi dormez-vous ? Levez-vous et priez pour ne pas céder à la tentation. »
Le verset clé pour la prédication de ce jour est le 42. En disant, « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. »
Nous retrouvons le verset pratiquement à l'identique dans Matthieu 26, 42. Il s'éloigna une seconde fois et pria ainsi. « Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. » Bien d'autres passages du Nouveau Testament où Christ parle de la volonté du Père en premier lieu dans cette prière que Jésus nous a enseignée, le Notre Père, où nous pouvons lire en Matthieu 6, 10, « Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » Aussi dans l'Évangile de Jean 4, 34, Jésus dit, « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. » Jean 5, 30, « Je ne puis rien faire de moi-même. Selon que j'entends, je juge. Et mon jugement est juste, parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » Jean 6, 38, « Car je suis descendu du ciel pour faire, non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. »
Chers frères et sœurs, où en sommes-nous avec la volonté de Dieu? La discernons-nous? L'acceptons-nous? La faisons-nous? Et lorsque nous l'avons discernée, ne la remettons-nous pas trop souvent en cause? Matthieu 6, 6 à 8 nous rappelle que Dieu sait de quoi nous avons besoin. Et si nous l'acceptons, il nous dirigera dans sa volonté.
Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez.
Il arrive parfois que nous ne comprenions pas ce que Dieu attend de nous et quelle est sa volonté. Savons-nous que, lorsque Dieu nous entraîne dans une nouvelle saison de notre vie, il sait exactement ce qui nous y attend. Sommes-nous conscients que chacune de nos épreuves ne lui est pas inconnue, mais qu'il l'a vécue avant nous?
Quand Dieu a délivré les Hébreux de l'esclavage égyptien, il les a guidés dans le pays de Canaan, le pays promis qu'il avait auparavant soigneusement exploré. Le Seigneur ne les a pas confrontés à des défis insurmontables ou à l'impossible. Il savait exactement où il emmenait son peuple et ce à quoi celui-ci devrait s'attaquer. Dieu s'est appliqué à rechercher le meilleur territoire pour ses enfants bien-aimés. Le chemin sur lequel nous nous trouvons est connu de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Jésus a expérimenté les mêmes difficultés que nous. Il a ressenti l'abandon, la trahison, la douleur, la solitude, le rejet, la peur. Il a fait face à la mort, à la maladie, au deuil. Chaque affliction humaine lui est familière. Il est passé par toutes les tribulations que nous pouvons connaître. L'Épître aux Hébreux nous apprend qu'il n'est pas incapable de compatir à nos faiblesses, mais qu'il a été tenté en tout point, comme nous, sans commettre de péché. Ainsi, si nous nous sentons déboussolés, dépassés par ce que nous traversons, ou même si nous nous sentons abandonnés, prenons conscience que le chemin sur lequel nous nous trouvons est connu de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ, qu'il l'a exploré avant nous et qu'il l'a vaincu. Et parce qu'il l'a vaincu, alors nous pouvons le vaincre aussi. Vaincre non pas par nos propres capacités, nos propres efforts, nos propres ressources, mais par la puissance de son triomphe à la croix. Alors, repassons dans notre cœur que Dieu veut le meilleur pour nous, que quoi qu'il arrive, il ne nous conduit pas vers la mort, mais vers la vie éternelle, vers le pays soumis où coulent le lait et le miel, l'abondance de sa grâce et de son amour. Ce jour-là, j'ai juré de les faire sortir d'Égypte pour les conduire dans un pays que j'avais exploré pour eux. C'était le plus beau de tous les pays, un pays qui déborde de lait et de miel. Ézéchiel.
Peut-être se dit-on parfois que notre vie ne regarde que nous et on fait ce qu'on veut. Sœurs et frères, sommes-nous en mesure d'exercer librement notre pouvoir de choisir? En fait, il est des réalités auxquelles nous sommes confrontés qui ne dépendent pas de nos choix. Vous, comme moi, nous n'avons pas choisi de naître, mais nous vivons. De même, d'une manière naturelle, nous ne choisirons pas de mourir, mais nous mourrons. La vie comme la mort ou même la maladie n'appartiennent pas à nos choix. Ce sont des rendez-vous que nous n'avons pas fixés nous-mêmes. Cependant, chacun a le choix de vivre sa vie comme il veut. En toutes circonstances, nous avons le choix. Certains ont choisi de brûler la chandelle par les deux bouts. C'est leur choix. D'autres ont choisi de vivre une vie de bohème, sans trop de règles. C'est leur choix. À l'opposé, il en est qui choisissent de vivre en ermite, soumis à des règles strictes. Chacun a le droit de vivre sa vie comme il veut. Nous avons le choix d'aimer la vie ou de la détester, d'avoir peur ou d'être en paix, de semer la zizanie ou d'être un artisan de paix. Ce qui nous appartient totalement, ce sont nos attitudes. Nous n'avons pas choisi d'être malades, mais quand nous le sommes, nous avons le choix. Soit de croire en Dieu, soit de nous révolter contre Dieu. Nous avons le choix, même si ce n'est pas toujours facile, d'être de bonne humeur ou pas. Nous pouvons être positifs ou négatifs, grincheux ou joyeux. En toutes circonstances, nous avons le choix. Soit de nous présenter comme une victime, soit d'accepter d'apprendre et de tirer des leçons pour grandir. Alors qu'il était en prison, l'apôtre Paul écrit aux Philippiens « Réjouissez-vous dans le Seigneur » Philippiens 4:4. Il se donnait lui-même en exemple en disant « J'ai appris à être content dans l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance » Philippiens 4:11-12. Paul avait choisi de cultiver le contentement. Ne soyons pas de ceux qui choisissent de se placer en position de victime. Choisissons de nous réjouir dans le Seigneur. Choisissons de ne plus penser à l'absinthe et au poison, mais de penser aux bontés de l'Éternel qui se renouvelle chaque matin. Lamentation de Jérémie 3, 19 et 23. Nous ne choisissons pas toujours la situation dans laquelle nous nous trouvons. Mais lorsque nous sommes dans cette situation, choisissons de faire confiance à Christ et attendons-nous à son aide. Et si cette aide, cette direction, ce virage qu'il nous demande de prendre n'est pas dans ce que nous avions projeté, acceptons-la, acceptons sa volonté. Lorsque nous avons des projets, des propositions, des virages, des changements, comment discerner le bon chemin?
Patrice Marteau Rano a écrit « Voici quelques principes à savoir lorsque nous recherchons sa volonté. Un cœur pur a des motifs purs. Premièrement, vérifiez si votre projet est en accord avec la parole de Dieu. C'est le point de départ. S'il ne l'est pas, il est de toute évidence clair que vous n'êtes pas dans la volonté du Père. Devoir mentir ou tricher pour accéder à votre but n'est pas dans les desseins de l'Éternel. Deuxièmement, demandez conseil à des sœurs et frères mûrs dans la foi. Leur sagesse et leur clairvoyance sont une arme puissante pour éviter de vous retrouver enfermé à cause de mauvaises habitudes. Quand Paul partit d'Antioche, il s'en alla avec l'approbation des anciens de l'Église. Votre entourage le plus proche est important. Si les personnes ayant un véritable amour pour vous restent sceptiques quant à l'issue de votre projet, cela veut certainement dire qu'il vous faut réfléchir encore un peu avant de vous engager. Troisièmement, analysez vos propres motivations. Essayez-vous de faire ce que vous désirez ou pensez-vous être dans la volonté de Dieu? Un cœur pur a des motifs purs. Quatrièmement, priez que selon sa volonté, Dieu ouvre ou ferme les portes. Vous pouvez avoir un projet en accord avec la parole de Dieu, confirmé par des chrétiens affermis, avoir des motivations très nobles et cependant voir vos portes se fermer. C'est précisément ce que Paul et ses compagnons ont connu. Si les trois premiers critères sont dûment remplis et que malgré cela l'accès à votre projet se trouve barré, n'ayez aucune crainte pour votre devenir. Attendez-vous à Dieu. Il a une meilleure alternative pour vous. Patrice Martorano a aussi écrit à propos de comment agir dans la volonté de Dieu. En Matthieu 4, 3, le tentateur s'étant approché, lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne à ces pierres de devenir des pains. » La tentation fait partie de notre vie. Elle nous permet de savoir qui nous sommes. L'épreuve existe pour que nous puissions tester la qualité d'une chose ou d'une personne. Changer des pierres en pain n'est ni difficile ni dangereux pour Jésus. Mais c'est une tentation qui l'invite à agir indépendamment de la volonté du Père. Nous devons être vigilants dans ce genre de fait. Regardons seulement à Dieu avant de regarder à nous-mêmes n'est pas une règle facile. Un des exemples bibliques des plus poignants est le péché de Saül. En effet, en faisant une offrande à Dieu, Saül s'est attiré le rejet de Dieu. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il a agi indépendamment de la volonté divine.
Il y a 33 ans, lorsque je suis arrivé à Damblin, pas très loin du berceau de ma famille paternelle, j'ai voulu tout de suite partir de cette région. Avec l'accord d'Annie, nous avons cherché à partir dans le Haut-Doubs, où j'avais des attaches, une maison, et selon ma perception des choses, c'était une bien plus belle région. Pour ce faire, il fallait qu'Annie obtienne sa mutation. Nous avons tout tenté. Écrit à Edgar Faure, qui était un homme politique haut placé, rien n'y a fait. Aucune porte ne s'est ouverte. À l'époque, nous n'avions pas encore donné notre vie à Christ. Mais nous ne nous sommes pas rebellés. Et nous nous sommes dit que ma foi, ici ou ailleurs. Et j'avais aussi compris que pour Annie, cela allait engendrer un big changement. Alors que pour moi, qui avais déjà pas mal bourlingué, j'arriverais bien à me poser. Ce n'est qu'après avoir donné notre vie à Jésus que nous avons compris que rester dans la Vosges était dans les plans de Dieu, dans sa volonté. Je me souviens, lors d'une fête d'anniversaire où je résumais notre parcours et à propos de cet épisode vécu, avoir chanté « Mais tout là-haut, Dieu nous a dit non, c'est dans la Vosges et dans sa région que je vous veux sans discussion. » Aujourd'hui encore, je n'ai aucun doute, Dieu nous voulait là. C'était son plan pour nous. En 86-87, lorsque nous voulions partir, nous aurions pu persister, trouver d'autres appuis peut-être, recommencer les démarches. Dieu, que nous ne connaissions pas vraiment, nous a guidés sans même que nous en rendions compte. Rester à Damblin était sa volonté. Sœurs et frères, lorsqu'une opportunité de changement se présente à nous, posons-nous cette question. En faisant cela, est-ce que je vais être dans la volonté de Dieu ou est-ce que je vais agir indépendamment de la volonté de Dieu pour moi? J'avoue que bien souvent encore, j'aurais tendance à suivre mon intuition. Pardon, Seigneur. Demandons comme le psalmiste, « Enseigne-moi à faire ta volonté. » Psaume 143, 10. À partir du moment où nous avons décidé, accepté de faire la volonté de Dieu, nous n'avons pas à faire semblant. Quand nous faisons sa volonté, nous pouvons jeter le masque. Inutile de convaincre les gens que nous sommes importants. Si nous craignons en secret de ne pas l'être et que pour donner l'illusion, nous donnons l'apparence de l'être, nous tombons dans l'orgueil, la vantardise, cela nous éloigne de la volonté de notre Père.
Une petite anecdote pour illustrer cela. Un lieutenant fraîchement promu se plaisait à impressionner ses subalternes. Lorsqu'un jour, un jeune soldat frappe à sa porte et entre dans son bureau, le lieutenant fait semblant de téléphoner. « Oui, mon général, vous pouvez compter sur moi », dit-il en raccrochant. Puis il se tourne vers le soldat pour lui demander l'objet de sa visite. « Je viens simplement vous brancher votre téléphone, mon lieutenant. » Il est extrêmement difficile de prétendre être ce que nous ne sommes pas. C'est ce qui nous épuise tant après une discussion, un rendez-vous professionnel, un entretien d'embauche, ou quand nous fréquentons une société qui attend de nous une certaine image. Très vite, nous allons nous épuiser et serons à ramasser à la petite cuillère. Faire la volonté de Dieu nous conduit à devenir, jour après jour, un être sans prétention. Tout ne se fait pas d'un claquement de doigts. Notre vieille nature est parfois tenace. C'est un combat permanent de ne pas nous laisser tenter d'être brillants alors que nous ne sommes pas vraiment. Lorsque nous y arrivons, c'est un immense soulagement, ne plus avoir à paraître plus humble qu'en réalité, ne plus feindre de prier davantage ou d'être plus calé que ça sur la Bible. Notre société aime bien le bling-bling, malheureusement. Cela existe aussi dans certains milieux chrétiens. Et parfois nous y tombons. Mais la bonne nouvelle est que nous n'aurons jamais à faire semblant avec Dieu. Une fragilité sincère lui convient mieux qu'une arrogance spirituelle. Pour accomplir sa volonté et devenir la personne qu'il veut que nous soyons, il faut être honnête avec nous-mêmes. Pour y arriver, faisons comme le psalmiste et prions. Enseigne-moi à faire ta volonté, car tu es mon Dieu, que ton bon esprit me conduise sur la voie droite.
C'est le verset en entier qu'on avait cité précédemment, 143:10.
Soyons nous-mêmes et Dieu fera le reste.
Avec son autorisation, je vais raconter une étape de la vie de Corinne. Depuis plusieurs mois, elle avait envie de changer de lieu de travail. Elle était fatiguée de cette manière de faire en EHPAD. En CDD, elle pouvait changer comme elle voulait. De plus, elle attendait une titularisation qui n'arrivait pas. Elle a donc envoyé CV et lettres de motivation à plusieurs endroits. Et les promesses d'embauche, entre guillemets, commençaient à arriver. Début novembre, elle avait son entretien professionnel dans la structure où elle est depuis 4 ans. Elle s'y rend la fleur au fusil. Et se disant que de toute façon, à la fin de l'année, elle ne serait plus là. Patatras. Une semaine après, elle reçoit la conclusion de l'entretien. Et voilà qu'elle est en stagiairisation en vue d'être titularisée. Le 19 novembre, lors d'un de nos échanges autour du passe-le-mot quotidien, que notre ami Jean-Louis reçoit aussi, elle m'écrivait au sujet des plans du Seigneur pour nos vies. Oui, il m'a offert cette stagiairisation à l'EHPAD. Moi qui ai du mal à suivre ce rythme infernal, j'ai peine à comprendre pourquoi. Et je lui ai répondu, certainement Dieu a un plan pour toi. Tu dois être le rayon de soleil pour les personnes dont tu t'occupes. Elles doivent sentir que tu es différente. Et Corinne d'acquiescer, toujours en regardant. C'est vrai qu'elles me disent que parfois que j'ai quelque chose comme ça.
Faire la volonté de Dieu demande de l'énergie. Et parfois, nous sommes épuisés. Christ lui-même l'a été sur le mont des Oliviers. Il faut de l'énergie pour accomplir la volonté de Dieu. Que faire alors lorsque nous avons épuisé toutes nos forces? Se pourrait-il que nous n'entendions jamais Dieu parce que nous n'écoutons pas? Quand nous nous sentons mal dans notre peau, que nous manquons peut-être d'énergie, Dieu nous demande de nous arrêter et de faire silence devant lui. Garde le silence devant l'Éternel et attends-toi à lui. Psaume 37, 7. Mais nous avons souvent du mal à faire silence. C'est comme si nous avions peur de ce silence. Il nous met très mal à l'aise. Dès que nous entrons dans la voiture, nous tournons le bouton de l'autoradio ou du lecteur CD. Ou, parenthèse, comme votre serviteur, nous branchons le téléphone. À peine arrivé à la maison, peut-être allumez-vous la télé ou mettez-vous la radio. Pourtant, en quelque sorte, Dieu nous dit, si tu veux réduire ton stress, c'est aussi simple que ça. Tais-toi, garde le silence, arrête de parler et commence à écouter. Patrice Marteau-Rano suggère qu'une fois par jour, nous allions nous asseoir dans un endroit tranquille, sans rien faire, à rester simplement silencieux. Il ne parle pas de lire la Bible. Cela, nous devrions le faire quotidiennement. Le conseil qu'il nous donne, c'est de rester seul 5 minutes par jour, sans parler. Il nous dit, posez une question à Dieu, puis tenez-vous tranquille, silencieux, et écoutez. Trop de fois nous disons, Seigneur, j'ai vraiment besoin de ta direction à ce sujet. Puis nous nous levons et retournons vaquer à nos occupations. Nous n'attendons pas la réponse.
Se pourrait-il que nous n'entendions jamais Dieu parce que nous n'écoutons pas? Patrice Marteau-Rano toujours nous dit, apprenez à faire des pauses éclairs au cours de la journée. Lorsque vous sentez que votre pression artérielle augmente, arrêtez-vous et priez. Seigneur, je veux me remettre à ton écoute. Je veux me recentrer sur toi. Il n'est pas question de faire une demi-heure de méditation, mais simplement d'interrompre notre activité pendant 15 ou 20 secondes. Des mini-pauses où l'on s'arrête et faisons silence. Pourquoi est-ce important? Parce que la vie est dure et tout à fait honnêtement, il n'est pas facile d'accomplir le plan de Dieu pour sa vie. C'est pourquoi il est essentiel de s'arrêter et de savoir qu'il est là. Je trouve ces conseils très importants pour ma vie. Notre vie, sachons nous arrêter, sachons écouter Dieu dans ces temps où nous faisons silence. Je suis persuadé que nous avons tout à y gagner pour être davantage en communion avec lui. Si comme moi vous ne pratiquez pas cela, ou très peu, je nous lance un défi à nous tous ici. Chiche, on y va ? Que ta volonté soit faite, Seigneur. Amen.
Amen.